France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'était en 1983, la première émission d'une nouvelle série proposée par Jean Montalbetti, L'homme en jeu. L'homme en question dirigeait le comité de pensée sociale à l'Université de Chicago, université prestigieuse. Un homme à son aise ou non au milieu de cette ville de Chicago, un bon professeur, allez savoir. Un homme qui n'était pas né à Chicago, mais au Québec, qui n'allait pas y mourir, mais à Brooklyn. Un homme prix international de littérature en 1965, puis prix Nobel de littérature en 1976, Saul Bellow. Rencontré sur le campus de l'Université de Chicago, une relation ambivalente avec cette ville. Première diffusion sur France Culture le 12 mai 1983.
Il faudrait dire « Chicagois », c'est-à-dire « l'oignon sauvage ». C'est le nom donné par les Indiens Illinois à la rivière qui se jette dans le lac Michigan. Chicago, c'est le contraire des deux villes historiques du XVIIIe siècle. Philadelphie et la Nouvelle-Orléans où le style colonial, anglais, français, espagnol, reste encore présent. Parce que Chicago n'a que 150 ans, et pourtant, elle a atteint le million d'habitants il y a près d'un siècle. Depuis, elle a plus que triplé. C'est la jeune géante qui rivalise en puissance, en audace, en créativité avec Los Angeles et aussi avec New York. C'est l'avant-garde de l'architecture urbaine, les formes les plus audacieuses, le toujours plus haut, toujours plus grand, pour édifier l'empire de la richesse. Entre Chicago River et le lac Michigan, sur le loop, autrement dit la boucle, la plus forte concentration de gratte-ciel. John Hancock Center et First National Bank. Marina City, Standard Oil Building. Mais au sud de la ville, l'envers du décor s'appelle Bronzeville. Des centaines de milliers de Noirs qui forment un tiers de la population de Chicago, dont la plus forte proportion de sans-travail, s'entassent dans des taudis. Ce ghetto est encore plus hallucinant qu'Harlem à New York. Il donne une impression de ville en ruine après un bombardement ou un tremblement de terre. La ville d'Al Capone est celle de la violence des contrastes. Les jazzmen de la Nouvelle-Orléans, chassés en 1917 sur ordre du commandement de la marine, y ont trouvé refuge. Mais le Chicago Blues n'est plus ce qu'il était. Nous avons traversé toute la ville, jusqu'à North Halsted, parce qu'on nous avait promis à The Blues la musique la plus authentique. Dans la pénombre d'un bar louche pour impression forte, nous sommes tombés sur un concert de guitare électrique dont nous n'avons retenu que l'insupportable agression des décibels.
In my heart, oh, how I cry in vain.
days. Won't you share memories? I'm the guy who set you free. Your love on a star-crossed destiny.
Un printemps américain, deuxième étape, Chicago. C'est à Chicago que nous inaugurons une nouvelle émission des après-midi de France Culture, L'homme en jeu, que vous pourrez entendre désormais le jeudi, tous les 4 semaines. Pendant 90 minutes, la personnalité d'un artiste, d'un écrivain, d'un savant, d'un chercheur, d'un homme ou d'une femme d'action, nous apparaîtra à travers un portrait en trompe-l'ouïe, c'est-à-dire dans toutes les dimensions de ses contradictions, telles qu'il apparaît aux autres, telles qu'il se voit lui-même, confronté à l'univers qu'il déteste le plus, mais aussi à la société où il a choisi de vivre, d'aimer, de créer, d'écrire, d'agir et de nous provoquer à être, chacun de nous, cet homme en jeu individualisé qui est aussi un homme en jeu dans le monde contemporain.
Well, I am not the moral conscience of the United States, and indeed, the United States wouldn't recognize that description of me. Why me? I'm just a romancier.
Nous nous voterons dans le pléonasme et la grandiloquence plus que personne au monde. Nous sommes en outre une nation de menteurs. J'ajoute qu'aucun peuple n'a jamais montré une telle passion pour l'autocritique. Nous nous accusons de tout. Nous sommes éternellement inculpés d'horribles crimes, poursuivis en justice, n'hésitant devant aucun aveu, si délirant et obscur soit-il. Le tout jeté à la consommation mondiale. Il est vrai que nous mentons beaucoup. Nous sommes des menteurs enragés.
La première fois que je l'ai vu, c'était dans le centre de la ville de Chicago. Et il portait un costume. Il était très, très bien habillé, avec chapeau, parapluie et tout. Tout était assorti. Et c'était un homme qui était tout à fait à son aise au milieu de la ville de Chicago. On ne le voit pas très souvent sur le campus, parce que c'est un personnage assez connu. Je crois qu'il évite de se montrer sur le campus. Mais en classe, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de force. Ce n'était pas du tout un bon professeur, parce qu'il laissait parler les étudiants sans donner sa propre opinion.
Est-ce qu'il est démagogue comme professeur?
Non, pas du tout. Mais j'avais l'impression qu'il jugeait les opinions des étudiants sans le dire, et qu'il tenait tout dans sa tête pour son prochain livre.
Je suis pas une vache qui chante. I am, after all, a writer.
Herzog donnait alors des cours du soir pour adultes dans une école de New York. En avril, il était encore assez clair, mais vers la fin de mai, il commença à battre la campagne. Ses élèves se rendirent compte qu'il n'apprendrait jamais grand-chose sur les sources du romantisme, mais qu'il verrait et entendrait des choses bizarres. L'un après l'autre, les accessoires du formalisme académique disparaissaient. Le professeur Herzog avait la franchise inconsciente d'un homme profondément préoccupé. Et vers la fin du trimestre, il y avait de longues pauses dans ses cours. Il s'arrêtait en murmurant « Excusez-moi » et en fouillant dans les poches de son veston en quête de son stylo. Il griffonnait sur des bouts de papier d'une main hâtive qui faisait craquer le bois de la table. Il était absorbé, des cernes sombres entouraient ses yeux. Son visage pâle trahissait tout, absolument tout. Il raisonnait, il discutait, il souffrait. Il avait songé à une brillante alternative, il était ouvert à toutes les idées, il les repoussait toutes. Ses yeux, sa bouche, dans leur silence éloquent, exprimaient tous ses états d'âme. Le regret, le fanatisme, la colère violente, on voyait tout cela. Les élèves attendaient 3 minutes, 5 minutes, dans un silence total.
Je ne suis pas une vache qui chante. I am, after all, a writer.
L'homme en jeu.
Saul Bellow, Chicago,
Saul Bellow,
Illinois.
Chicago, Illinois.
Saul Bellow, romancier et prix Nobel de littérature en 1976, juif américain, citoyen d'une ville élue et haï, Chicago, dans l'Illinois, au bord du lac Michigan, professeur dans l'une des plus prestigieuses universités d'Amérique, l'Université de Chicago, où nous venons vous voir aujourd'hui dans votre bureau du Comité de la Pensée Sociale, the Committee of Social Thought, que vous dirigez. Vous êtes né au Québec, où vous avez d'ailleurs passé vos premières années jusqu'à l'âge de 9 ans à Montréal. Mmh. Vous avez vécu un moment en France à la fin des années 40. Vous êtes familier de la culture et de la littérature française. Vous nous parlerez donc en partie en français, une langue d'ailleurs dont vous citez de nombreuses expressions dans vos romans. Mais vous exprimerez aussi dans votre langue de culture et d'écriture, l'anglais, un anglais très pur, très oxfordien, presque, à une oreille étrangère du moins. Je crois que vous connaissez aussi le russe, le yiddish, parlé dans votre milieu familial. Alors quel rapport de passion ou d'aversion entretenez-vous avec toutes ces langues?
Well, je suis plus à mon aise en anglais, bien sûr. Et je bavarde aussi en espagnol et en italien, un peu de russe. C'était utile de comprendre mes parents quand ils parlaient en cachette.
Quelle langue utilisaient-ils quand ils parlaient en cachette?
En russe.
Le russe?
Le russe, oui.
Et le yiddish était parlé également dans votre famille de façon
courante?
Oui,
le yiddish est dans les rues, le français canadien, ce qui n'est pas le français parisien, bien sûr. Et... ma nourrice était une femme indienne de l'autre côté du Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent. Donc j'étais habitué à une diversité de langues.
Une indienne de Caughnawaga, de
oui,
l'autre côté de
Caughnawaga. Vous connaissez Caughnawaga?
Oui. Dans la région de Montréal. Mais est-ce qu'il y a une passion que vous entretenez avec certaines de ces langues? Quelle est celle que vous aimez, en dehors de l'anglais, bien entendu, qui est votre langue de culture?
Well, it's the English. It's English, of course, that I'm so much attached to. It's my first love. I was bilingue as a child. I spoke Yiddish and English at the same time. And I still speak Yiddish. Je me débrouille pas mal en Yiddish.
Vous avez l'occasion de parler yiddish ici?
De temps en temps, oui, avec mes frères.
Qui vivent aussi à Chicago?
Oui.
Mais pas avec votre femme, puisque votre femme est d'origine roumaine.
Elle est roumaine, oui. Mais elle a appris pas mal de yiddish, elle aussi.
Est-ce que vous sentez profondément en vous l'unité de toutes ces cultures, juives, russes, américaines, anglaises, françaises, qui... au fond, concourt à enrichir une même identité, ou est-ce qu'au contraire, vous les vivez comme des tensions contradictoires qui sont impossibles à concilier?
Pour un Américain, il faut toujours accepter le mélange tel qu'il est. It's characteristic of American life that there is such a mixture. It is part of American life. I'm not speaking now of the Amérique des mythomanes. I'm speaking of the real America,
C'est une caractéristique de la vie en Amérique, ce mélange, ça en fait partie. Je ne parle pas là de l'Amérique des mythomanes, je parle de la véritable Amérique, qui est un rassemblement d'individus vivant tous dans la suprême application de la Constitution et des lois américaines. C'est une sorte d'accord contractuel. L'Amérique est la seule nation au monde fondée sur un principe rationnel. Si vous acceptez les termes du contrat, vous êtes américain, même si vous ne connaissez pas un mot de la langue.
Est-ce que c'est vrai de toutes les parties de l'Amérique? C'est probablement davantage vrai d'une ville comme New York ou d'une ville comme San Francisco à l'ouest. Est-ce que c'est vrai aussi d'une ville comme Chicago?
Chicago was really a string of industrial villages settled by
Chicago était en fait une suite de villages industriels créés en majorité par des Européens, Polonais, Irlandais, Allemands, Bohémiens, Croates, Ukrainiens, Italiens, vivant en communauté, non pas complètement séparés, mais assez séparés. Et ceci pouvait aller jusqu'à ignorer la langue américaine et les coutumes jusqu'à la deuxième ou à la troisième génération parce que les enfants fréquentaient les écoles paroissiales et n'apprenaient pas l'anglais courant. Mais maintenant, l'assimilation s'est généralisée et le bilinguisme est beaucoup plus répandu. Bien que la population hispanique tienne à sa langue et refuse, dans son ensemble, d'apprendre l'anglais.
Ce qui est très mal, I think it's a very bad thing.
Donc il est à la fois possible de conserver sa ou ses cultures d'origine et également de s'intégrer parfaitement à la société américaine.
Well, there's nothing against the principle of pluralism, which is, I think, an accepted and very important
principle. Il n'y a rien qui s'oppose au principe du pluralisme, qui est un principe politique et social reconnu et très important. Mais tout de même, la langue est l'anglais. La langue des traditions est l'anglais. En particulier, la tradition législative et politique et les règles du jeu doivent être comprises en anglais. Et je crois que les Américains devraient tenir fermement à la primauté de l'anglais, sinon, à ce train-là, dans 20 ou 30 ans, il pourrait y avoir des mouvements irrédentistes espagnols aux USA, et tout à coup, on aurait un Sudetenland américain quelque part le long de la frontière texane, ce qui ne serait pas une très bonne idée.
L'émigré, et particulièrement l'émigré d'Europe orientale, tient une place importante dans votre œuvre romanesque. Vous êtes vous-même un fils d'immigrants russes, d'une famille, je crois, qui venait à la fois de Saint-Pétersbourg et de Riga.
Right.
O.J. March, dans Les aventures d'O.J. March, est, comme vous, fils d'immigré. Arthur Samler vient de Pologne, dans La planète de M. Samler. Ces microcosmes d'Europe orientale ont pu subsister à Chicago en particulier?
It was like that, and it was a sort of Freemasonry, though, of...
Oui, c'était comme ça, c'était une sorte de franc-maçonnerie de tous ces éléments. Je crois que c'est important que les Européens aient une idée nette sur ce sujet. Il n'y avait aucun inconvénient particulier à être les deux. Je me rappelle une parade patriotique de vétérans polonais de la Première Guerre mondiale. Beaucoup parlaient mal l'anglais, mais ils étaient venus avec leurs drapeaux et les insignes de leur régiment, et ils ont fait leur parade avec grand patriotisme. C'est un peu difficile à comprendre, mais je crois qu'un grand enthousiasme pour les États-Unis s'est développé parmi ces groupes européens qui ont trouvé une double identité, pas seulement celle de l'immigré, mais en plus celle de l'Américain, avec tout son potentiel émotionnel.
Bar Yochai Nimshahta Ashrecha Shemen Sason Mehaverecha Bar Yochai Shemen Mishat Kodesh נמשכתה ממידת הקודש.
Vous avez reçu une éducation religieuse, vous avez donc été formé par la religion juive, mais vous en êtes éloigné par agnosticisme. ce qui vous relie à l'univers de la judéité n'est pas même une approche du sacré, ni une pratique de la Torah. Alors, quelle est pour vous la nature de ce lien profond avec le monde juif ?
Well, I would say it was something like the following. A child opens its eyes and doesn't really know that the world is.
Je vais essayer de vous expliquer. Un enfant ouvre les yeux et ne connaît rien du monde dans lequel il est né. Tout est nouveau et étrange. Il accepte l'évidence que ce qu'il voit est le monde. J'ai accepté comme une évidence toutes ces choses étranges et je vivais dans une communauté polyglotte qui, je le suppose, ferait frémir les Européens de l'Ouest et qu'ils qualifieraient de bâtards, d'hybrides, mais en fait c'était les débuts d'un cosmopolitisme, les conditions de l'avenir qui semblent envahir aussi même l'Europe occidentale.
At the age of four, I was set to the study of the Old Testament in Hebrew. And by the time I was six, I was well acquainted with Genesis.
À 4 ans, on m'a mis à l'étude de l'Ancien Testament en hébreu. À l'âge de 6 ans, je connaissais donc à fond le livre de la Genèse en hébreu. Je n'avais pas la notion du temps, et il me semblait que les patriarches de la Bible étaient des contemporains. Ce n'est que peu avant 10 ans que j'ai commencé à avoir cette notion de l'éloignement dans le temps. Mais à cette époque, c'est comme si j'avais eu 4008 ans d'âge. J'avais ajouté 4000 années à mon âge. Ceci, je crois, est caractéristique de l'existence juive dans le monde moderne.
And it is ineradicable influence. Nothing can be done about that. One does become more sophisticated. One reads in the history of religions.
On n'y peut rien. C'est une influence indéracinable. Mais quand ceci devient plus sophistiqué, qu'on lit l'histoire des religions, on ravive ses propres croyances ou on les abandonne. Mais ces expériences précoces et puissantes ne me quitteront jamais, quoi qu'on ait pu me faire, je dois le reconnaître.
Acknowledge them. I'm in no position. I'm no more in a position to understand what happened than the bird can be its own ornithologist. Or the fish can be its own ichthyologist. You know, you just find yourself in a milieu.
Je suis en opposition. Je ne suis plus en état de comprendre ce qui est arrivé. Et l'oiseau peut être son propre ornithologiste et le poisson peut être son propre ichthyologiste. On fait ce qu'on peut avec.
It does not breed fanaticism.
Cela vous donne une certaine distanciation vis-à-vis de l'histoire, peut-être même une plus grande objectivité dans votre jugement sur les choses. Cela n'engendre pas le fanatisme.
Ça, c'est votre monde juif intérieur. Mais lorsque vous vous rendez en Israël, comme vous l'avez fait au moment de la guerre des Six Jours en 1967, ou quelques années plus tard, au moment de votre 60e anniversaire, à la fin de 1975, il semble que vous soyez perçu comme différent, comme très différent par les Juifs d'Israël, particulièrement par les Juifs religieux, par les Hassidim. Comment vous voit-il, vous, Juifs de la diaspora, qui avez rompu avec la loi juive?
Well, I'm not sure that I have entirely broken with Jewish law or with Jewish loyalties. There are certain things.
Je ne suis pas sûr d'avoir complètement rompu avec la loi juive, avec l'obédience juive. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas rompre, surtout au XXe siècle. Si l'on considère l'expérience des Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne veut pas se dissocier de cette histoire très pénible et odieuse. On ne veut pas échapper à cette sorte d'identification. On n'a pas envie de faire des concessions avec quelqu'un. Je ne me confondrai pas avec un Juif qui accepte l'idée de se fondre dans une autre civilisation. Je crois que l'aventure de l'assimilation des Juifs d'Europe a été un désastre et une tragédie.
Jews in the 19th century, or ever since the end of the 18th century, to assimilate themselves to these great European traditions and to make themselves a part of a life which they admired so much and to which they made such a great contribution.
Je crois qu'il y avait au 19e et à la fin du 18e siècle chez les Juifs un désir très puissant de s'assimiler à ces grandes traditions européennes et de participer à une vie qu'ils admiraient tant et à laquelle ils ont tant contribué. Mais tout cela a été balayé, ça a commencé sous la période de Weimar, une république qui s'effondrait déjà, et pour Hitler. Le seul programme politique d'Hitler était la haine des Juifs, et c'est en utilisant cette haine qu'il a réussi à réunifier l'Allemagne et à la préparer à la guerre.
Hatred, which I consider to be the most dangerous form of nihilism developed in Europe. There was no possible conciliation between the Jews and that destructive nihilism whose aim the aim of which was to murder them.
Je ne crois pas qu'il ait jamais eu d'autre politique que celle basée sur une haine fanatique que je considère comme la forme la plus dangereuse de nihilisme qui se soit développée en Europe. Il n'y avait pas de conciliation possible entre les Juifs et ce nihilisme destructeur dont le but était leur anéantissement. Une fois pour toutes, il est devenu impossible pour les Juifs de composer avec cette sorte de nationalisme nihiliste. J'ajouterai que je pense que l'Holocauste n'était pas seulement l'un des plus affreux de l'histoire, mais pour les Juifs, en tant que Juifs, ce fut une terrible humiliation, le fait qu'ils n'aient pas été capables de s'organiser pour se défendre contre cet épouvantable assaut, une blessure pour les Juifs qui les conduisit à la conviction qu'ils avaient perdu la face devant l'humanité.
Militancy, courage, gallantry of the Jews, the military accomplishment of the Israelis came out of this, was a reaction against this humiliation and was motivated by a need to regain the respect of mankind.
Je ne serais pas étonné que la bravoure exceptionnelle et les prouesses militaires des Israéliens soient une réaction contre cette humiliation et s'expliquent par la volonté de reconquérir le respect de l'humanité. Quand on veut reconquérir le respect de ceux qu'on nomme les gens civilisés, il faut apprendre à tuer à son tour, et je crois que ceci est une partie de l'histoire d'Israël. Nous avons fait un marché. J'enseigne à de jeunes gens comment écrire pour les journaux et en retour, j'ai l'occasion d'apprendre pourquoi ma modernité s'est tarie. À l'université, j'ai eu le temps de lire des piles de bouquins. À Paris, j'étais bien trop occupé à écrire des articles sur l'art et à bavarder intelligemment. Je suis revenu à Chicago pour poursuivre mon éducation. Et puis il a fallu que j'écrive ces articles. Il n'y avait pas moyen de l'éviter. Les jeunes gens diraient que c'était mon karma. Enfin, il y a le Chicago d'en bas et le Chicago d'en haut. Il y a Big Bill, Thompson, et puis il y a Aristote, qui lui aussi a depuis longtemps eu affaire avec cette ville, ce qui amuse énormément de gens. Aussi curieux que ça paraisse, Aristote a beaucoup d'influence dans certains quartiers de Chicago. Notre grande sœur, l'Université de Chicago, l'a remis au goût du jour. Un homme sans ville est soit une brute, soit un dieu. Eh bien, Chicago, c'était la ville. Mais est-ce que c'était bien sûr, après tout? Où était-elle? Qu'était-elle devenue? Pas de ville? Alors où était la civilisation? ou bien les États-Unis tout entier étaient-ils à présent ma ville?
C'est un homme froid.
Oui. Oui. Je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais pour ceux qu'il ne connaît pas, il est assez froid, je crois.
Il a un petit peu le physique de Charlie Chaplin, vous ne trouvez pas?
Il est grêle et maigre et petit. Mais quand il est bien habillé, il a une vraie présence.
Quelles sont les images de vous-même que vous renvoient les critiques, vos étudiants, vos lecteurs, et qui vous surprennent le plus de votre propre personnalité à travers ce que vous écrivez?
I always thought that I was much bigger physically than I am. To my great surprise, and it's dawned on me with astonishment that I'm not very big. That's one of the things that old age is beginning to bring home to me.
Je me suis toujours cru plus grand physiquement que je ne le suis. À ma grande surprise, je dois reconnaître que je ne suis pas très grand. C'est une des choses que le grand âge me révèle.
Et le big que vous employez, le grand, s'étend aussi à la notoriété? Vous avez beaucoup d'humour quand vous racontez, par exemple, qu'assistant un jour à une réception à la Maison-Blanche, vous voyez Nelson Rockefeller venir vers vous pour vous saluer, ce qui vous flatte beaucoup, et vous vous apercevez qu'en cours de route, il vous a pris pour quelqu'un d'autre.
That's right. But he is such a great Democrat and vote-getter that he greeted me. He faltered for a moment. But then he greeted me just the same because he knew I was an American and had a vote.
C'est vrai, mais c'était un si grand démocrate et un si bon capteur de vote qu'il me salua. Il hésita un instant, mais ensuite, il me salua tout de même parce qu'il savait que j'étais américain et que je votais.
Quels sont les autres traits que l'on souligne dans la critique, notamment américaine, de vos livres et qui donnent une curieuse image de vous-même d'après ce que vous percevez?
I don't really pay too much attention to the image that critics create of me. I find when I talk to them that they're not as doué as they ought to be, d'intelligence. And I find when I read them that it's really quite astonishing how many different ideas they can come up with that have nothing at all to do with my intention or the notion of the book that I have.
Je n'attache pas tellement d'importance à l'image que les critiques créent de moi. Je trouve, lorsque je parle avec eux, qu'ils ne sont pas si doués d'intelligence qu'ils sont censés l'être sur le plan intellectuel. Et quand je les lis, je suis étonné de voir tout ce qu'ils ont pu trouver et qui n'a aucun rapport avec mes intentions ni avec l'idée que je me fais de mon livre.
Mais ça, c'est plutôt bien parce que ça prouve que le livre fonctionne et existe en dehors de vous, pour d'autres lecteurs.
Well, I rely upon a small group of readers whose intelligence is demonstrated by the letters that they write to me, which are far more important to me than the criticisms that I read in the press.
Je fais confiance à un petit nombre de lecteurs qui prouvent leur intelligence par les lettres qu'ils m'écrivent, ce qui est beaucoup plus important pour moi que les critiques de la presse.
Et vous-même, comment est-ce que vous voyez les principaux traits de votre caractère? Quels sont ceux que vous voudriez plus particulièrement faire passer à travers ce que vous écrivez?
My opinion of my own character is in continual revision. And sometimes
mon opinion sur mes propres caractéristiques est sujette à de continuelles révisions. Parfois, je crois que tout le but de l'interrogation sur soi est la recherche du noyau essentiel de l'existence dont les gens semblent être étrangement éloignés.
And it is not exactly what Sartre meant by mauvaise foi, which he meant self-estrangement or self-alienation.
Ce n'est pas exactement ce que Sartre appelait mauvaise foi. Il voulait dire aliénation de soi, aliénation presque délibérée. mais c'est vraiment difficile de se saisir. Et il faut le faire en référence au monde extérieur, c'est-à-dire en brisant la résistance du monde extérieur, et par conséquent, on examine le monde extérieur afin de se connaître soi-même.
Apparemment, Sartre et les autres veulent que les Juifs soient exceptionnellement exceptionnels. Peut-être les Juifs ont-ils eux-mêmes suscité une telle expectative. Israël a fourni des efforts extraordinaires pour se montrer démocratique, équitable, raisonnable, capable de changement. En fait, Israël a transformé ses Juifs. Dans l'Europe d'Hitler, on les conduisait à l'abattoir. En 1948, les rescapés devinrent de redoutables combattants. Exilés et sans terre, ils sont devenus fermiers. Les Mamelouks avaient décrété que la plaine côtière palestinienne devait rester un désert. Ils en ont fait un jardin. Manifestement, les Juifs ont assumé leur singularité. Ils y étaient contraints, ils s'y sont tenus. La question est de savoir si l'on peut exiger plus des autres peuples. Aucun ne se trouve dans ce cas. Je me demande parfois pourquoi il est impossible aux intellectuels occidentaux, et en particulier aux Français qui jouissent d'un tel prestige en Syrie, au Liban et en Égypte, et qui entretiennent des relations avec la gauche arabe de ce pays, de dire aux Arabes « De vous aussi, nous devons exiger plus. Vous aussi, en particulier les marxistes parmi vous, devez essayer d'œuvrer pour la fraternité et de faire la paix avec les Juifs, car ils ont souffert terriblement en Europe chrétienne et sous l'islam. » Israël occupe environ le sixième d'1% des terres que vous dites arabes. N'est-il pas possible d'adapter les traditions de l'islam, d'en réinterpréter le sens afin d'accepter cette occupation insignifiante? Une grande civilisation devrait être capable de ses concessions à l'humanité, à la générosité. La destruction d'Israël ne vous vaudra rien. Laissez donc les Juifs vivre dans leur petit état. Mais sans doute est-ce manquer de respect culturel de demander aux gens de modifier, même légèrement, leur position. De toute manière, Sartre n'a rien dit de semblable. Il avait l'esprit entièrement absorbé par la révolution. La glorieuse, l'ineffable révolution.
C'est curieux que vous vous référiez à Sartre parce que c'est un philosophe que vous n'aimez pas beaucoup.
No, I don't like him very much, but he's so characteristic that it's impossible not to refer to him, especially to a French interviewer.
Et pour un Américain aussi?
Well, I think that we all understood, we were all assommés par Sartre en 1952-3, quand il était tellement bien connu et fameux, tout cela. And after all, Americans have always lived by importing ideas from Europe, and his was one of the ideas. He was one of the prominent exporters of French ideas to the United States, so it's inevitable that we should think about him.
Il l'a été pendant les années 50. Est-ce qu'il l'a été également plus tard, dans les années 60, par exemple, à l'époque d'un militantisme beaucoup plus actif du côté du gauchisme?
His influence was beginning to fade already in the 60s, and people stopped taking him so very seriously then.
Son influence commençait à décliner déjà dans les années 60 et les gens cessaient de le prendre très au sérieux. Et comme leur culture était plus large, les Américains commençaient à se rendre compte qu'après tout, les racines philosophiques de Sartre étaient largement allemandes dans une certaine mesure, et qu'à ce moment-là, ils feraient mieux de lire Heidegger, Husserl ou Nietzsche, et qu'alors ils auraient la même chose. Moins le marxisme, qui à l'époque était devenu de trop pour tout le monde.
Et vous-même, vous avez été influencé par la pensée existentialiste ou par le marxisme, par exemple, à une certaine époque de votre vie?
Of course, like all the good students in America during the 30s, college students during the 30s and 40s, just before the war.
Bien sûr, comme tous les bons étudiants américains qui faisaient leurs études supérieures dans les années 30-40, juste avant la guerre, je lisais Marx et je l'avais si bien compris que quand je suis arrivé en France en 48, j'ai été étonné de voir en quelle considération les Européens tenaient encore les idées marxistes qui pour nous étaient déjà dépassées, disons, chez les étudiants du niveau licence aux USA.
Thank you.
Dans notre littérature, il n'y a ni Tartuffe, ni monstre d'hypocrisie, ni cynique notable, mais une multitude de mythes vertueux dont nous imprégnons notre existence avec un sérieux imbécile. C'est animé des meilleures intentions que nous commettons le mal.
Dans son dernier livre, L'hiver du doyen, le personnage du doyen de l'université de Chicago, Alfred Cord, écrit aussi dans les journaux des articles où il critique un certain nombre d'aspects de la vie communautaire à Chicago et de l'organisation de la cité. Est-ce que, comme écrivain, et comme écrivain qui a une notoriété internationale, Saul Bellow écrit aussi dans les journaux de Chicago et dispose d'un certain pouvoir intellectuel?
Je ne sais pas si à Chicago on peut trouver vraiment des forces intellectuelles comme à Paris, par exemple, ou comme même à New York. Saul Bellow est respecté certainement par tout le monde comme auteur, mais un pouvoir intellectuel, je ne sais pas si on a le milieu ici pour faire croître ce pouvoir.
Jeff?
Non, je dirais qu'il n'y a pas de pouvoir intellectuel à Chicago, c'est un pouvoir de maire, c'est un pouvoir politique qui gouverne vraiment la ville, et je dirais ici qu'on s'intéresse surtout à la politique à Chicago et aux affaires, c'est une ville des affaires et de la politique.
Comme vos doubles romanesques, Charlie C. Treen dans Le Don de Humboldt ou bien Alfred Cord, le doyen de l'université de Chicago dans votre dernier roman, L'hiver du doyen. Vous appartenez à une élite intellectuelle, une élite qui publie, qui enseigne, qui s'exprime librement dans les journaux. Vous disposez donc aux États-Unis d'un pouvoir intellectuel et vous jouez un peu le rôle d'un exorciste de la société américaine d'aujourd'hui. Un rôle qui semble à la fois vous passionner, mais une société qui vous fascine et en même temps à l'égard de laquelle vous semblez éprouver une très grande frayeur.
Je ne suis pas la conscience morale des États-Unis et les États-Unis ne seraient pas d'accord avec cette description. Ils penseraient à quelqu'un comme Billy Graham.
Why me? I'm just a romancier. And I have no such intentions, that is to say, there is no tradition for the American homme de lettres to be.
Pourquoi moi? Je suis seulement un romancier, je n'ai pas d'intention de ce genre. Il n'y a pas une tradition pour l'homme de lettres américain d'être le porte-parole de la moralité publique. Ceci est mort avec le 19e siècle.
Last summer, my wife was reading Balzac, Le Cousin Pons, La Cousine Bette, and she was assez étonnée de tout cela.
L'été dernier, ma femme lisait Le Cousin Ponce et La Cousine Bette de Balzac et elle était assez étonnée de tout cela. Elle me demandait, est-ce que la vie est vraiment comme ça? Elle me demandait ça parce qu'en tant que mathématicienne, elle était assez ignorante de tous ses vices.
So I said to her,
elle n'a jamais lu vos livres?
No, I don't think she has read my books very much. She said, are things really like that?
Non, je ne crois pas qu'elle ait tellement lu mes livres. Elle disait, est-ce que les choses se passent comme ça vraiment? Et je lui répondais, oui, plus ou moins, je crois que Balzac voyait assez juste. La différence entre les romans de Balzac et la vie américaine au XXe siècle, c'est que quand les Français ont eu vraiment le frisson du mal, ils ont compris que c'était le mal. Et ça a été tout à fait dramatique pour eux. Tandis que les Américains du XXe siècle n'y voient plus clair là-dedans et ils ont perdu le pouvoir de distinguer entre le bien et le mal.
Terrible wives, awful criminals, jeunes ambitieux, les avares, les vautrins, And all the rest of that.
Ce qui fait qu'on ne peut plus provoquer le frisson en racontant des histoires pareilles, des épouses épouvantables, des criminels affreux, des jeunes ambitieux, des avares, les vautrins et tout le reste. Ce qui était si tragique au 19e siècle ne ferait plus sourciller aux USA. Je crois que les Américains sont en danger de perdre le sens aigu du bien et du mal dans leur comportement. Et l'une des raisons à cela, c'est qu'ils sont, pour ainsi dire, absorbés par leur spécialité. Ils sont de plus en plus assimilés à leur profession et de moins en moins en situation de se concevoir en tant qu'individu. Et la profession vous donne une sorte d'absolution pour toutes les fautes que vous pouvez commettre personnellement.
Vous-même, vous avez cette conscience aiguë de la différence fondamentale entre le bien et le mal. Il semble pourtant que vos personnages participent des deux, ont cette dualité en eux.
Well, of course, I don't know. I mean, I'm not about to make an éloge de moi-même for your program, but I do think that the sense of right and wrong dies hard and has to be stamped out. In many cases, that conscience does not succumb easily.
Je ne sais pas, je ne veux pas faire un éloge de moi-même pour votre émission, mais je crois que le sens du bien et du mal a la vie dure et qu'on aurait du mal à s'en débarrasser. La conscience ne trouve pas si facilement la paix.
Vous acceptez pourtant de vous définir tout de même comme un moraliste, d'une certaine façon, dans vos romans.
Bon, je ne suis pas dépourvu du sens du bien et du mal, mais je pense que plus on peut être objectif et mieux c'est, à la fois vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres.
And I think the greatest of writers are those actually who don't have this parti pris.
Et je crois que les plus grands écrivains sont ceux qui n'ont pas ce parti pris et qui ne se sentent pas de responsabilité sociale.
Le curé pour tout le monde, de tout le monde. No, I don't think so. I think it's a bad idea.
Le devoir d'être le curé de tout le monde. Non, je ne trouve que ce n'est pas une bonne idée. Et c'est l'erreur des écrivains européens au XXe siècle de croire qu'ils ont la responsabilité de ce qui incombait autrefois à la religion. C'est une erreur incontestablement.
Mais d'une certaine façon, le romancier, lorsqu'il décrit les conflits de cette société, est-ce qu'il n'en est pas, en les montrant, d'une certaine façon, un exorciste?
Well, I think that in my last book, The Dean's December, Mr. Cord, whom you mistakenly call my double, says one must begin by describing everything.
Je pense que dans mon dernier livre, L'hiver du doyen, M. Cord, qu'injustement vous appelez mon double, dit qu'on doit commencer par décrire chaque chose, parce que même en description, rien n'existe de ce qui se passe. Le mot écrit, le journalisme, les autres médias, tout conspire à cacher la nature même de l'expérience morale aux gens qui commencent à croire qu'il n'existe pas de langage pour ce domaine. Et il n'y en a que de fausses représentations.
So that the first, if an intellectual has a duty, his first duty should be, I suppose, if he will accept this charge, to at least to describe what is happening.
Si bien que le premier devoir d'un homme de lettres, si tant est qu'il y ait un devoir et s'il accepte cette responsabilité, serait au moins de décrire ce qui se passe ou de réaccréditer l'expérience auprès des lecteurs, car c'est ce qui est en train de se perdre dans un tourbillon de fausses représentations, de falsifications et d'aliénations. La possibilité de juger l'expérience, et cela devient de plus en plus difficile.
Humboldt, juvénile, aimait profondément la vie de l'esprit et je partageais son enthousiasme. Quant aux intellectuels qu'on a l'occasion de rencontrer, c'est différent. Je me conduisais assez mal avec le beau monde mental de Chicago. Denise invitait des êtres supérieurs de tout acabit à Kenwood pour discuter avec eux politique, économie, race, psychologie, sexe, crime. Tout en servant à boire et en riant beaucoup, je n'étais pas précisément affable et hospitalier. Je n'étais même pas amical. « Tu méprises ces gens, » disait Denise avec irritation. « Seul Dernwald fait exception, ce rapien. » Cette accusation était juste. Je n'avais qu'une idée, les envoyer sur les roses. En fait, c'était l'un de mes rêves favoris, l'un de mes plus chers désirs. Ils étaient contre le vrai, le bien, le beau. Ils niaient la lumière. « Tu es un snob, » disait Denise. C'était inexact. Mais je ne voulais rien avoir à faire avec ces salopards juristes, politiciens, psychiatres, professeurs de sociologie, gens d'église, pseudo-artistes, c'était pour la plupart des propriétaires de galeries, qu'elle invitait. « Il faut que tu rencontres des gens qui soient vrais, » m'assura George un peu plus tard. Denise t'environnait de fantasmes, et maintenant, du matin au soir et du soir au matin, tu es tout seul avec des tonnes de bouquins et des papiers dans cet appartement, et je te jure que tu vas devenir cinglé. « Pourquoi pas ? » répondis-je.
Seul Bellow, est-ce que vous avez le sentiment de vivre à Chicago dans un monde préservé, qui est celui de la littérature, celui de l'université, par exemple, où nous sommes, une sorte de ghetto intellectuel qui est à l'abri des turbulences d'un univers urbain, social, économique, qui est complètement perturbé et où les conditions de vie sont tragiques?
Well, the university is no longer la tour d'ivoire.
Vraiment?
No, not at all. But you see, even the governments and the various governments and the media can no longer function without.
Même les gouvernements et les médias ne peuvent plus fonctionner sans les expertises fournies par les universités. Et par conséquent, on trouve dans les universités à la fois des gens très actifs et des fumistes de toutes sortes qui jouent un rôle dans la vie de la société, un rôle parfois très important, parfois très rentable.
Look at the number of people who have received higher education in the central institutions of the country. You can no longer refer to the university as cette tour d'ivoire.
Et si vous regardez le nombre de gens qui font des études supérieures dans les institutions centrales du pays, vous ne pouvez plus parler de l'université comme cette tour d'ivoire.
Il y a tout de même deux, trois mondes tout à fait différents à Chicago. Pour un œil extérieur, on voit un centre extrêmement opulent et riche, qui est le monde des affaires, qui marche extraordinairement bien. Il y a cette sorte de bulle d'univers préservé, d'un style Nouvelle-Angleterre, qui est le campus de cette université où nous sommes. Et puis entre les deux, il y a la ville tragique, la ville en ruine, qui est la ville de la pauvreté, la ville de la violence, la ville de l'agression. Et vous tout de même, c'est là que nous vous trouvons. Je veux dire, dans cette bulle, dans cet univers préservé qui est celui de l'université. Or, écrivain reconnu et admiré, intellectuel influent, universitaire érudit, familier de Proust, de Kafka, de Joyce... Vous aimez confronter cet univers de la culture que l'on retrouve constamment dans vos livres, où il y a toujours, très fréquemment en tout cas, un personnage qui est un peu le double de vous-même, l'un de ces érudits. Vous aimez confronter donc cet univers intellectuel à un univers primitif de violence, de sexe, de crime, un peu comme le fait d'ailleurs un autre érudit du monde américain, du continent américain, George Luis Borges, qui intègre avec aisance, lui aussi, l'univers des mauvais garçons, l'univers des gauchos.
Well, you know, what is so strange, what is so characteristic of modern literature anywhere is the mixture of high and low, of sophistication and barbarism, of decadence and idealism.
Ce qui est si étonnant et si caractéristique de la littérature actuelle un peu partout, c'est ce mélange de haut et de bas, de sophistication et de barbarisme, de décadence et d'idéalisme. C'est vrai dans toute la littérature moderne et c'est vrai des intellectuels du XXe siècle qui ont vécu l'ascension des ouvriers et qui sont devenus bolcheviques ou nazis.
Who defined themselves in that way. It's true of writers like the most refined of English writers like T.S. Eliot or or James Joyce, that their language was a mixture of Elizabethan poetry and the language of the streets.
C'est vrai des plus raffinés parmi les écrivains anglais de T.S. Eliot et de James Joyce. Leur langue est un mélange de poésie élisabéthaine et d'anglais de la rue. C'est vraiment ça, et c'est également la vie de quiconque se dit intellectuel. Il est enfant des masses, il vient de tout en bas.
C'est pas seulement un monde défavorisé, c'est un monde du mal. Charles Citrine, par exemple, qui est cet hyper-intellectuel, qui est un peu le double de vous-même dans le Don de Humboldt, aime se frotter à la pègre de Chicago. Alors, est-ce qu'il y a un dialogue possible entre ce monde hyper-intellectualisé dont vous êtes l'un des représentants et puis ce lupin prolétariat que vous appelez aussi lupin population que l'on trouve, par exemple, à
Well,
Chicago?
It's an old tradition, isn't it? After all, Jesus preached to the publicans and the sinners.
C'est une vieille tradition. Jésus prêcha pour les publicains et les pécheurs. Il n'a pas essayé de préserver sa pureté dans les sanctuaires religieux. C'est une caractéristique ancienne de toute vie civilisée.
It's a very old feature of civilized life.
C'est aussi une fascination personnelle que vous avez tout de même.
Yes, because so many of the people that I went to prison with were I went to school with where it went to prison afterwards.
Oui, parce que tant de personnes avec qui j'étais en prison avec qui j'étais à l'école, ont été en prison ensuite. Moi, je ne suis jamais allé en prison. Et j'ai connu de très nombreux criminels, intimement, depuis l'enfance. Et c'est vrai qu'ils m'intéressent.
Vous avez fait un doctorat d'anthropologie et vous dirigez à l'Université de Chicago un institut de la pensée sociale. Mais il semble, à travers vos romans, que vous refusiez les systèmes de pensée, aussi bien dans le domaine socio-économique, comme celui de Marx, par exemple, que dans le domaine de la psychologie, comme le système de Freud.
Well, yes, it's true that I do. I'm not at home with those things. That is to say, I am at home. I've spent long years of my life studying these matters.
C'est vrai, je ne me sens pas à l'aise dans les systèmes. J'ai passé des années à les étudier, mais quand j'ai vu à quoi on en arrivait historiquement avec cette activité intellectuelle, j'ai rompu.
Je m'éloigne de tout cela. I have no appetite for it anymore. I think it's just history has. I've lived long enough to see history expose some of these errors.
Je n'ai plus aucun appétit pour ce genre de travail. Je crois que j'ai vécu assez longtemps pour voir que l'histoire met en évidence les erreurs et j'ai réalisé le temps que j'avais perdu là-dessus. C'était nécessaire, sinon je n'aurais jamais rien compris, ni aux gens qui y croient. Et je ne voulais en aucun cas rompre avec eux. Ce n'était pas pour moi me singulariser, mais je peux dire que je suis consterné par le résultat de la pensée moderne.
Et par exemple, dans votre dernier roman, L'hiver du doyen, vous montrez tout le ridicule des clichés psychanalytiques que vous refusez, que vous écartez par la dérision.
Well, it seems to me that all of these doctrines have to be understood as not only in theory, but in their application to life. And when you see what their application to life.
J'ai l'impression que toutes ces doctrines doivent être comprises non seulement comme une théorie, mais aussi dans leur application à la vie. Et quand vous voyez ce que leurs applications dans la vie ont donné, quand vous voyez, par exemple, l'effet qu'a eu la psychanalyse sur la culture et la société américaine, vous avez un grand frisson de désaffection. Et vous vous dites, mon Dieu, est-ce qu'on a aussi besoin de ça?
A book that's having considerable influence on me, which is Nietzsche's Will to Power, and he says there.
Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Et récemment, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup marqué, La volonté de puissance de Nietzsche, et il dit très clairement dans la partie qui concerne l'art que ce mélange de l'art et de la pensée a été un échec.
That Wagner was not so much interested in music as he was in literature, that he was really a littérateur, and a régisseur, or whatever you want to call him, that he was.
Ce livre dit que les peintres ont peint l'histoire de l'art ou des idées littéraires, que Wagner était moins intéressé par la musique que par la littérature, qu'il était en fait un littérateur, un régisseur, appelez ça comme vous voudrez, mais qu'il n'était pas vraiment un grand musicien. Il ne pouvait pas laisser les idées tranquilles. Il ne pouvait pas laisser tranquille la vie intellectuelle. Est-ce que ça aurait été mieux s'il l'avait ? Le véritable art rejette ces formes mélangées que l'époque moderne a tant aimées.
Dans le Don de Humboldt, l'écrivain Charlie C. Treen établit un rapport entre l'aliénation et le repli sur soi. Plus on se concentre sur soi, plus on se sépare du monde et plus on devient la proie de l'autre. Et cet autre n'est plus un tortionnaire individuel, comme par exemple l'est Albi pour Leventhal dans La Victime, mais le pouvoir avec son idéologie répressive. Est-ce que l'écrivain, et particulièrement l'écrivain que vous êtes, arrive à échapper à cette aliénation-là ?
Well, I think that modern life is characterized by the isolation of consciousness, which gives the individual the opportunity of freedom, but which generally turns into a kind of tyranny.
Je crois que la vie moderne se caractérise par la solitude de la conscience qui donne aux individus l'occasion d'être libres, mais qui généralement se retourne en une sorte de tyrannie. La condition moderne de la conscience incline au despotisme précisément parce qu'il est si difficile aux consciences développées de se trouver en communauté et de fraterniser, de former des relations émotionnelles et qui correspondent. C'est vraiment la difficulté.
The price of intelligence, this modern intelligence which has created a world of such technological miracles, is the impoverishment of contact and the impoverishment of feeling. That's the paradox.
C'est le prix de l'intelligence moderne qui a créé un monde qui est un vrai miracle technique, l'appauvrissement du contact et l'appauvrissement du sentiment. C'est le paradoxe que plus l'intellect se développe, plus la conscience individuelle est enrichie et plus on est étrangers les uns aux autres. C'est la condition de l'homme moderne. Il y a des moyens violents d'en venir à bout, disons les nationalismes ou les mouvements prolétariens, ou la fraternité des terroristes, dont l'unité vient de l'idéologie du meurtre, mais ça n'est pas pour nous.
But that's not for us.
I know they're powerful, I know they're true, and I know that God has spoken to me of your crooked plans, you Russian red communists, you are going to fail. And you Nazis who hate the Jews in America, God is going to plague you with the pestilence of fever. You'll tremble and your skin will feel like it's on fire.
Il avait mis ses vérités personnelles à l'épreuve de la gangrène de Chicago. Ce qui ne signifiait pas qu'il n'y eut que de la gangrène. Il y avait le Chicago des affaires, campé sur ses gratte-ciels, le Chicago monumental des banques, le Chicago des grandes compagnies, informatisées et électronisées. Il y avait le Chicago historique, sur lequel il avait écrit tout un tas de choses curieuses. Les vieux quartiers, leur atmosphère, leur architecture, les arbres, la terre, l'eau. Leur luminosité étonnamment changeante. Il se rendait bien compte que la population qui s'échappait de ces quartiers cloaques améliorait ses conditions d'existence une fois relogée dans de nouveaux quartiers. Mais c'était aussi la peur qui l'avait obligé à déménager. Et puis, ce qui était abandonné, c'était la désolation. Des kilomètres carrés de ruines à n'en plus finir.
Lui qui appartient à un monde un peu sophistiqué d'intellectuels américains dont il est le représentant, on sent qu'il a une fascination pour le monde un peu interlope, pour le milieu, pour les mauvais garçons de Chicago. Est-ce que vous croyez qu'il connaît ce milieu, qu'il a de vrais contacts avec le milieu?
Tout le monde qui vit à Chicago ressent cette fascination, je crois. Et je crois que Saldello, oui, puisqu'il a toujours habité ici, il doit avoir cette même intérêt.
Jeff, est-ce que vous êtes familier de ces romans?
Oui, j'en ai lu quelques-uns, oui. Je ne crois pas, par exemple, que ce soit un univers exclusif à Chicago. Je crois qu'il projette une impression de Chicago. Donc, je crois qu'il y a un mythe de Chicago dans le monde que moi, j'ai rencontré un peu partout dans le monde. Et il joue avec ce mythe plutôt que projeter la vérité, je ne sais pas.
Il est sévère tout de même sur Chicago. Il présente Chicago un peu comme une ville en ruine qu'il compare dans le monde de l'Est à Bucarest après le tremblement de terre.
Oui, d'accord. Mais je ne sais pas si je peux dire, mais je dirais que c'est une habitude américaine, quoi, de se critiquer un peu comme ça, de dire que les villes américaines sont les ruines qu'on vit après guerre dans un monde sans esprit, sans vitalité.
Serge Bello, à la manière des romanciers russes, Dostoïevski par exemple, auquel vous avez d'ailleurs consacré un essai, vos romans fourmillent de personnages et aussi d'anecdotes dont vous tressez les fils simultanément. Et pourtant, ces romans sont centrés sur un protagoniste et très fortement insérés dans une certaine société américaine dont vous êtes le peintre à la fois ironique et cruel. Je pense aux aventures d'Audie Marsh ou aux dons de Humboldt, ou même à la planète de M. Samler. L'univers dostoïevskien, oui, mais sans la perspective de la parousie dostoïevskienne, c'est aussi cette enquête perpétuelle dans vos livres sur la nature profonde du mal.
Well, I'm sure one cannot escape this theme of evil. And why should one?
C'est sûr qu'on ne peut échapper au thème du mal. Et pourquoi devrait-on y échapper? Il y a une sorte de demande à l'égard des écrivains pour qu'ils disent au public les choses avec ménagement et pour qu'ils redonnent à chacun une assurance. Et il y a une très forte pression dans ce sens, en particulier aux USA.
Where people are saying, give me something to live for. Well,
les gens disent, donnez un but à ma vie. Je suppose qu'implicitement, un écrivain, par le fait même qu'il écrit bien, propose un but à la vie.
Vous vivez à Chicago depuis maintenant près d'une soixantaine d'années, au milieu d'un monde de violence, de haine, de crimes sexuels ou crapuleux, de drogue aussi. Et votre univers romanesque est aussi, comme celui de Dostoïevski, traversé par des meurtriers. Mais le crime peut être, semble-t-il, parfois pour certains d'entre eux, une façon de se révéler à eux-mêmes, un peu à la manière de Raskolnikov dans Crime et Châtiment ou bien de Stavrogin dans Les Démons.
Well, I think that in both those cases, the case of Raskolnikov and the case of Stavrogin, what you encounter is exactly this rational isolation of the person who feels no contact and sees no reason why he shouldn't commit any sort of crime.
Je crois que dans ces deux cas, c'est exactement cet isolement rationnel de la personne qui n'a aucun contact et qui ne voit pas pourquoi elle ne commettrait pas toutes sortes de crimes. Il doit être racheté par le christianisme russe. Ce n'est évidemment pas ce que je pourrais conseiller. Mais je crois que c'est un sujet universel de la littérature mondiale de notre époque depuis un certain temps. Peut-être est-il temps de changer. Une chose intéressante qui m'est venue à l'esprit il y a déjà longtemps au sujet des gens dans les villes américaines, c'est la tolérance qu'ils ont pour les mafiosi et même la fierté qu'ils ont à l'égard de la violence. Cela m'a fait réfléchir et j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils pensent que tous les milieux d'affaires et beaucoup de milieux professionnels ont quelque chose de criminel.
as having a criminal character. But there are those who enjoy immunity and safety by belonging to a professional or business class. There are those who pay the price, as people continually do in Chicago, the mafiosi, who are gunned down. Recently, there was a,
il y a ceux qui profitent de l'immunité et de la sécurité qui appartient au milieu des affaires et ceux qui payent le prix, comme c'est le cas sans cesse à Chicago, avec les mafiosi qui se font descendre. Récemment, il y a eu un syndicaliste fraudeur à Chicago, en relation avec la mafia, qui a été abattu. Et la ville s'est passionnée pour cette affaire.
Nationally, and he died in a parking lot, shot through the head. There was a great excitement in the city about that. I asked myself why there should be so much. Was it because he was a rich and powerful man? No, it was because he paid the price.
C'était un multimillionnaire très puissant, avec des amitiés politiques très compliquées à Chicago et sur le plan national, et il est mort dans un parking d'une balle dans la tête. Ça a été toute une affaire dans la ville. Je me suis demandé pourquoi. Si c'était parce qu'il était riche et puissant, non, c'est parce qu'il avait payé le prix. Il y a là une sorte de justice primitive. Un banquier international dont les crimes sont aussi grands, sinon plus, n'aurait pas payé ce prix-là parce qu'il aurait bénéficié d'une certaine immunité qu'il aurait mis à l'abri de représailles sanglantes. Mais ce manque d'immunité par rapport à des représailles violentes est une chose primitive qui plaît à la population urbaine américaine.
Arizona and California, and they're seen with Frank Sinatra, and they're on television, and they have these big automobiles, and they have servants. All kinds of privileges, but they pay the price. They're liable any time to be descendu.
Les gens disent, bon, ils sont quand même exposés. C'est vrai qu'ils sont riches et puissants, qu'ils ont des maisons partout, qu'ils vont aux Antilles en hiver, en Arizona et en Californie, qu'on les voit avec Frank Sinatra à la télévision. Ils ont ces énormes voitures et un tas de valets et un tas de privilèges, mais ils paient le prix. Ils sont à tout moment en danger d'être descendus. Alors, en un sens, ils ont plus de respect pour eux que pour les directeurs des multinationales qui ne courent aucun risque.
Il y a souvent dans vos livres la rencontre, ou plutôt le choc, entre deux mondes. L'Europe centrale, des convulsions de la Seconde Guerre mondiale, et le nouveau monde des années 1960-1970, par exemple dans La planète de M. Samler. Bucarest et Chicago, dans L'hiver du doyen, deux villes qui sont menacées de ruines, à l'est comme à l'ouest. Le monde de la culture la plus sophistiquée pour Herzog, pour Humboldt, pour Charles Chitrin, et puis celui de la lumpen population de ces bas-fonds de la société capitaliste, qui est un peu comme l'envers de ce paradis humaniste. Et par un jeu de miroir, vous ne cessez de renvoyer à l'homme ces deux images contradictoires, car chacun de vos personnages est simultanément ange et démon dans une dualité indissociable qui est votre façon tranquille, semble-t-il, à la fois d'aimer et de désespérer de l'humanité.
No, I'm not désespéré at all. I'm quite excited by everything. I am usually in a state of mental intoxication and enthusiasm.
Je suis généralement dans un état d'intoxication mentale et d'enthousiasme, et l'une des raisons pour lesquelles je ne supporte aucun stimulant est que je suis naturellement très stimulé, et si je l'étais davantage, j'ai l'impression que je décollerais complètement.
I should like to say how little of all of these things that you describe are planned by me. I mean, they happen. They happen to me. I've paid the price for them, so to speak. Organically, by the loss of vital power and the wearing out of my organism, and so on.
Je voudrais que vous sachiez combien peu des choses que vous évoquez sont voulues. Ces choses m'arrivent, j'en ai pour ainsi dire payé le prix organiquement par la perte de l'énergie vitale et l'usure de mon organisme. Ce n'est pas comme si je l'avais fait par choix ou en suivant telle idéologie ou tel programme. Je l'ai fait tout simplement. Les choses ont un caractère accidentel.
Vous peignez avec ironie, une ironie mordante, l'Amérique qui joue à la révolution, par exemple dans La planète de M. Samler ou bien dans L'hiver du doyen, avec les idées du neveu de Cord, Mason. Cette Amérique qui joue à la révolution, Vous avez été confronté à de tels groupes, notamment au sein de cette université.
Well, all comfortable classes have their turn in playing at Revolution. It began in 1789, or before 1789, when the Ancien Régime was playing at Revolution. And then later on, the Haute Bourgeoisie played at Revolution. I think that it's a weakness, it's un faible of all comfortable people.
Toutes les classes installées confortablement jouent à leur tour à la Révolution. Cela a commencé en 1789, avant 1789, quand l'Ancien Régime a joué à la Révolution. Plus tard, la haute bourgeoisie l'a fait. C'est un faible des gens confortablement installés. Leur luxe suprême, c'est de jouer à la Révolution. Je me souviens avoir déjeuné un jour avec Gian Giacomo Faltrinelli à Milan. Il y possédait un grand nombre d'industries, il était vêtu d'un costume à la Castro, il avait une moustache à la Castro, il fumait le cigare et il avait une mitrailleuse dans le coin. Et il me parlait du livre révolutionnaire qu'il allait écrire. Et à la fin, je lui ai dit, mais ce ne sont pas des idées marxistes.
I'm going to write an even more revolutionary book than Marx could have conceived of for the present age.
Et il m'a répondu, je n'ai jamais lu Marx, c'est trop tard. Je vais écrire encore plus de livres révolutionnaires que Marx n'aurait pu en concevoir pour l'époque actuelle.
And then this poor type, un peu con, blew himself up while trying to explode an electric power line. Which would have stopped his own factories.
Ensuite, ce pauvre type un peu con s'est fait sauter en essayant de faire exploser la ligne électrique qui alimentait ses propres usines. Alors, si vous me demandez mon avis là-dessus, je dis, évidemment, c'est la marque d'un privilège.
Des gens comme Humboldt, ils expriment une certaine conception de la vie, les sentiments de leur époque, découvrent la signification des choses, les vérités de la nature, savent saisir les chances qu'offre leur époque. Quand ces chances sont exceptionnelles, alors naissent l'amour et l'amitié entre tous ceux qui sont attelés à la même entreprise. C'est ce qu'on trouve par exemple dans l'éloge de Mozart par Haydn. Quand les chances sont trop rares, surgissent le dépit, la fureur, la folie. Voilà près de 40 ans que je suis lié à Humboldt. Nos relations ont eu un caractère extatique. L'espoir d'accéder à la poésie, la joie de connaître un créateur de poésie, vous savez quoi? En Amérique, est enfouie la poésie la plus extraordinaire, la plus inouïe au sens propre, mais elle reste inaccessible aux démarches de la culture traditionnelle. Mais aujourd'hui, ceci est vrai du monde dans son ensemble. L'angoisse est trop profonde, le désordre est trop grand pour permettre une création artistique selon les processus classiques. Je commence maintenant à comprendre où Tolstoï voulait en venir quand il invitait les hommes à suspendre la fausse et vaine comédie de l'histoire et à commencer simplement à vivre. Le désespoir et la folie de Humboldt ont mis pour moi cette idée en évidence. Il a franchi toutes les étapes orageuses de cette routine. La démonstration a été concluante. Il est clair qu'elle ne peut aujourd'hui se poursuivre. Il nous reste à écouter en secret l'écho de la vérité que Dieu dépose en nous.
Sharon, est-ce que c'est un monde qui pour vous est un peu apocalyptique et est-ce que c'est un monde proprement juif que ne partagent peut-être pas de la même façon les autres Américains?
Ah mais non, je ne dirais pas que c'est un monde juif, je dirais que peut-être c'est un monde américain, mais il aborde aussi les problèmes universels. Je n'ai lu qu'un de ses romans, mais c'était l'histoire d'un homme d'un certain âge et ses problèmes dans la vie. Ce qui m'a frappé, c'était que, à travers le roman, il a mentionné les marques américaines. Et même en lisant ce roman, je me suis dit, mais quelqu'un qui n'est pas américain, qui va lire cela dans une trentaine, dans une quarantaine d'années, on aura des problèmes à comprendre tout cela. On n'aura pas le contexte, la culture américaine pour comprendre ça. Mais je crois qu'il y a peut-être un mélange. Il y a le milieu américain, mais il y a aussi les problèmes universels auxquels chaque personne doit faire face.
Saül Bellow, il semble que pour cette humanité en fin de parcours que vous décrivez dans vos romans, il n'y ait plus de terre promise. Le doyen, dans votre dernier livre, L'hiver du doyen, Alfred Cord, est fasciné par sa marche vers les étoiles, gagné par le froid de la mort à la fin de ce roman, et il n'éprouve aucun plaisir à redescendre de son observatoire. Au fond, il semble que, pour vous, la société de fraternité n'est qu'un rêve juif, que même les juifs, après l'avoir tant de fois imaginé et rêvé, ont été impuissant à réaliser et à incarner en Israël. Les Juifs sont très bizarres de ce point de vue. Le monde leur dit, c'est ainsi que vous devez faire pour faire vos preuves, pour prouver la réalité de vos visions. Et les Juifs acceptent plus ou moins la responsabilité de le faire. Ce qui veut dire en réalité qu'ils perdent leur liberté et quelquefois leur santé mentale en tentant l'impossible. I don't like to have this kind of thing laid upon me as a personal responsibility. I assume that you're saying. Moi, je n'aime pas qu'on m'impose ce genre de responsabilité personnelle. Je suppose que vous voulez dire qu'ils n'ont pas créé une société parfaite et juste au Moyen-Orient et qu'ils ont agi comme tout le monde, qu'envers les Arabes, ils n'ont pas vraiment mis en œuvre leur idéal de fraternité et qu'ils n'ont pas créé l'État juste. So it's as if you were saying to me, well, they didn't create utopia. It's quite true, they didn't create utopia. C'est comme si vous me disiez qu'ils n'ont pas créé l'utopie. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas créé l'utopie. Ils y sont allés avec des idéaux à la Tolstoï pour créer une société décente, démocratique, juste, équitable, tolstoïenne et agraire, et ils sont devenus une mini-superpuissance au Moyen-Orient. Who was to have foretold that that this would happen and that they would need the most advanced weapons of destruction in order to defend themselves and to defend
Certes, c'est vrai, mais qui aurait pu prévoir ce qui se passerait et qu'ils auraient besoin des armes les plus sophistiquées pour se défendre, pour défendre cette petite enclave de 3,5 millions de personnes dans un monde hostile qui en compte plusieurs centaines de millions?
Nobody could have foretold that. So I really don't know what one is to say about a question like that. Have they turned into some kind of monstrosity? No, I don't think so. I think that Christians have a particular interest in seeing Jews fail in this enterprise. Because the Jews
Personne ne pouvait le prévoir. Alors je ne sais vraiment pas comment on doit répondre à une telle question. Sont-ils devenus des monstres? Je ne crois pas. Je crois que les chrétiens ont un intérêt tout particulier à voir les juifs échouer dans cette entreprise, parce que les juifs les ont obligés à prendre en compte les crimes des années 40 et leur ont mis le nez dedans. Donc, le monde chrétien tout entier, s'il existe encore un monde chrétien, ce dont je doute, c'est peut-être simplement un monde de païens, ce monde tout entier met le nez des juifs dans leur propre faute dès qu'ils en commettent et il le fait vigoureusement avec ardeur. Alors, je ne suis pas pour ça non plus.
Are the Jews trying to hold the rest of the world to some standard of inhuman humaneness which nobody can fulfill? I don't know. It's certainly no responsibility of mine.
Est-ce que les Juifs essaient d'imposer au reste du monde des valeurs inhumaines d'humanité que personne ne peut remplir? Je n'en sais rien et ce n'est certainement pas ma responsabilité à moi.
Saül Bellow, comme Charlie Citrine dans Le Don de Humboldt, pensez-vous que la notoriété ne vous a pas guéri d'un certain sentiment de l'échec en pensant que le génie inaccompli était celui d'un Humboldt qui incarne un peu à la manière de Malcolm Lowry l'agonie du poète américain?
The public side of my life really means very little to me. I concentrate still on
J'attache très peu d'importance au côté public de ma vie. Je me concentre toujours sur mon travail, plutôt sur l'écriture, comme je le faisais avant. Quand j'examine un de mes livres, je le feuillette et je me dis, tu as réussi ceci. Ceci n'est pas mauvais. Ceci est franchement mauvais. Tu aurais mieux fait de ne pas écrire ceci. J'enlèverais bien les pages 15 à 18 si je pouvais, mais maintenant c'est trop tard. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois.
I would remove pages 15 to 18 if I could now, but it's too late. I'll try to do better next time. I'm not about to make an éloge de moi-même for your program.
The victim.
Pour un Américain, il faut toujours accepter le mélange tel qu'il est.
Mr. Samless Planet.
Last summer, my wife was reading Balzac, Le Cousin Pons, La Cousine Bette, and she was assez étonnée de tout cela.
Humboldt's Gift.
Terrible wives, awful criminals, jeunes ambitieux, les avares, les vautrins, and all the rest of that.
The Adventures of Audrey March.
And then this poor type, un peu con, blew himself up.
The Dean's December.
Je suis pas une vache qui chante. I am, after all, a writer.
L'homme en jeu. Saül Bello, Chicago, Illinois. Une émission proposée et animée par Jean Montalbetti et réalisée par Christine Bernard-Sugy.
Avec la participation de Majorie, de Jeff, de Sharon, étudiant à l'Université de Chicago. Traduction de l'américain Pierre Kemner et Ben Zimet, les textes extraits d'Herzog, du Retour de Jérusalem, du Don de Humboldt, de La Planète de Monsieur Samler et de L'Hiver du Doyen ont été dits par Jean Negroni. Prise de son à Chicago, Gilbert Durand, mixage Monique Burguière et Michel Gallou.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 12 mai 1983.